Bonjour à tous. En attendant de vous retrouver lundi prochain pour trois émissions en direct de la Croisette, on ouvre le bal aujourd'hui avec une spéciale festival de Cannes. Invité de la première partie jusqu'à midi et demi, le réalisateur iranien Asghar Farhadi, projeté hier soir, Everybody Knows, sort en salle aujourd'hui. Tourné en Espagne avec Penélope Cruz et Javier Bardem, ce thriller familial met en scène conflits intérieurs et dettes sociales. Puis, dans la deuxième partie de l'émission, les femmes et le cinéma, une industrie miroir de la société où les inégalités sont présentes à toutes les échelles, sur tous les maillons de la chaîne. Maintenant, comment les corriger? Faut-il mettre en place des mesures spécifiques, multiplier les symboles? Avec nous, à partir de 12h55, la productrice Michelle Halberstadt, la réalisatrice Zabou Breitman et la chercheuse Brigitte Rollet. Mais avant de dérouler le programme, un journal de Cannes, chaque jour à 12h03, les temps forts du festival jusqu'à ce que le palmarès s'en suive. Et ça commence aujourd'hui, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Nouveau rendez-vous toute la longueur du festival Midi 3 au Palais des Festivals, le journal de Cannes d'Antoine Guillot. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Une cérémonie d'ouverture présentée hier par Édouard Baird, pas une nouveauté, plutôt un jamais 203. Un coup d'envoi lancé par Martin Scorsese et Cate Blanchett et un couple de stars à la ville comme à l'écran omniprésent du tapis rouge au plateau cannois du JT. Bilan de cette soirée d'ouverture, Antoine?
Écoutez, c'est plus un spectacle télévisuel hein, que vous me demandez de critiquer d'une certaine manière. Olivia, comme disait Édouard Baird au début de cette cérémonie, personne ne sait quoi faire. On fait de son mieux et c'est un peu le sentiment qu'on a eu parfois, celui de regarder la soirée des Césars, parce que c'était pas très différent dans l'esprit, un mélange de nonchalance et de désinvolture qui va pas forcément très bien avec la pompe cannoise qui a fait que Cannes est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une grande messe. Donc ça demande un certain nombre de cérémoniaux qui ne sont plus tellement respectés, je dois avouer.
Bon. Bon, alors ça c'est fait pour la soirée d'ouverture, les paillettes, un peu de champagne. Aujourd'hui, on entre dans le dur et c'est peu dire avec un film fleuve tourné au-delà du Styx, les âmes mortes du chinois Wang Bing qui porte à l'écran la mémoire des camps de la mort maoïstes. C'est projeté en ce moment, Antoine.
Oui, c'est projeté depuis 10h du matin pour de très courageux marathoniens de la projection, parce que le film dure 8h15, il y aura une petite pause au milieu, donc on imagine qu'ils sortiront de cette projection vers 19h. Alors ce film est un immense film.
On en écoute un extrait et on vous
reprend. Avec plaisir.
Je ne vous demande pas de traduire, Antoine Guillot, mais racontez-nous.
Mais ce qu'on voit là, c'est une cérémonie d'enterrement, et le film est une sorte de grande cérémonie d'enterrement pour les victimes de cette répression qui a commencé en 1957 en Chine. C'est moins connu que la révolution culturelle, c'est la répression anti-droitier. Et ce dont parle Wang Bing, c'est de camp de la mort, véritable camp de la mort où les prisonniers étaient affamés, des milliers de personnes sont mortes de faim et leurs ossements sont dispersés dans le désert de Gobi. Lui, avec ce film et avec des témoignages des survivants, il leur donne d'une certaine façon une sépulture. Ce film est à la hauteur de Shoah. C'est un film très important qui est projeté aujourd'hui à Cannes.
Oui, le parallèle peut être fait aussi dans la longueur du film. 8h, disiez-vous ?
8h15, mais ce ne sont qu'une petite partie des 600 heures de rush, des 120 témoignages que rassemble Wang Bing depuis 2005.
Wang Bing, un cinéaste au statut assez particulier, clandestin dans ses tournages, dans son pays. C'est un film politique qui fait donc la vraie ouverture de ce festival de Cannes. Antoine Guillot.
Oui, Wang Bing, c'est le seul réalisateur chinois complètement indépendant. Il tourne sans demander rien à personne. Il parle de la condition ouvrière, des asiles psychiatriques, des immigrés intérieurs de la Chine. On ne sait pas quel sera son statut maintenant s'il revient en Chine, parce que c'est une histoire que le pouvoir actuel voudrait un peu faire oublier, même si toutes les victimes de cette répression ont été réhabilitées. C'est sans doute ce qui a été le plus incroyable jusqu'en 1978 à peu près.
Le journal de Cannes d'Antoine Guillot à retrouver sur franceculture.fr. Merci beaucoup Antoine et à demain. France Culture, il est midi 6. Quatorze ans après La mauvaise éducation de Pedro Almodovar, c'est donc un film espagnol qui fait l'ouverture. Le vôtre, Asghar Farhadi, bonjour.
سلام میکنم و منم
بونجور.
اتفاق خوبیه که
Je suis très heureux moi aussi
در اسپانیا ساختم توی
que mon film espagnol fasse l'ouverture du festival et qu'il soit considéré comme un film espagnol.
Bonjour aussi à votre voix française, Massoumé Laïdji. Pedro Almodóvar, le maître du cinéma espagnol, président du jury du dernier festival de Cannes, est-ce qu'il a parrainé, approuvé cette incursion cinématographique, la vôtre, Asghar Farhadi, sur son territoire?
Je ne sais pas si je peux parler de parrainage, mais en tout cas, c'était une personne de confiance pour moi.
Et
je dois dire que j'ai découvert le cinéma espagnol surtout grâce à ses films. Non seulement c'est un grand cinéaste du monde, mais il est un des grands noms que l'on retiendra de l'histoire du cinéma espagnol. Donc avant d'aller en Espagne, ce que je savais de l'Espagne venait beaucoup du cinéma, et donc en grande partie du cinéma d'Almodóvar. Et nous avons d'abord collaboré sur ce projet, puisque c'était LDCO, sa société de production, qui devait produire le film. Lui avait lu le scénario et je me souviens que je lui avais demandé dans quelle mesure il trouvait que le scénario était vraiment espagnol, puisque j'avais la crainte qu'il ne le soit pas. Et il m'a dit, cette histoire est tellement espagnole que si un jour tu ne veux pas la tourner, je la tournerai moi. Et pour moi, c'était une sacrée approbation.
Hola, pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto.
Joan, ella es mi hermana Laura.
Mucho mejor. Nada que ver con el anterior.
Está muy guapa.
¡Paco!
Está muy guapa, qué grande.
Tu madre, de Paco. Estuvieron enamorados.
¿En serio?
¿Le ha pasado algo anoche?
¿Y tú no viste a nadie sospechoso?
Debían de tener a alguien entre los invitados.
Llamo a Alejandro y que venga lo antes posible.
¡Mi hija! Déjenme decidir qué hay que hacer.
Antonio, vale, ya está.
¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame
en paz! No es obra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno.
Everybody Knows, dont on vient d'entendre un extrait, s'ouvre sur le retour de Laura avec ses enfants dans son village natal au cœur du vignoble espagnol. Pendant la fête, sa fille est enlevée par des inconnus qui vont très vite demander une rançon. Durant l'interminable attente de ses parents, secrets et non-dits vont remonter à la surface, Asghar Farhadi. Loin du brouhaha des villes, dans cette campagne espagnole où vous avez tourné, est-ce que c'est un autre brouhaha que l'on peut entendre si on tend bien l'oreille, celui de la rumeur, celui des préjugés, ce son un peu de la suspicion?
Il me
semble que plus on avance dans ce film et plus profondément, on découvre le passé des personnages. Et le silence de cette famille est plein de non-dits. Et en effet, cette rumeur sourde commence à se faire entendre. Nous découvrons le film dans des vignobles très beaux, très actifs, et petit à petit on découvre le passé de cette terre. Et en parallèle, nous découvrons cette jeune fille pleine de vie dont on découvre aussi le secret de la naissance. Et tout cela, oui, ce sont des rumeurs qui nous viennent du passé.
Donc,
on ne traite pas autant du mensonge que de l'omniprésence du passé. Si nous avons fait quelque chose il y a des décennies, nous croyons que cette chose est derrière nous et pourtant nous en portons encore la responsabilité. C'est assez effrayant de se dire que ce que l'on fait aujourd'hui aura des répercussions, une résonance sur votre propre vie, mais aussi celle des autres pendant encore très longtemps. C'est une très lourde responsabilité.
Un cinéaste, metteur en scène, Asghar Farhadi, vous êtes venu du théâtre que l'on retrouve à l'écran dans votre film Le Client, spécialiste que vous êtes de l'œuvre du dramaturge Harold Pinter, prix Nobel de littérature, qui observait les silences autant que les mots. Comment réalisez-vous ce travail sur le langage dans une autre langue que la vôtre, l'espagnol en l'espèce ?
Ce
n'est pas simple d'avoir ce rapport-là dans une langue qui n'est pas la vôtre. À propos de Pinter, puisque vous parlez de lui et du silence dans son œuvre, le silence, ce n'est pas seulement des moments de silence où les personnages ne parlent pas. Parfois, ils parlent beaucoup, les personnages de Pinter. Et pourtant, il y a du silence, parce qu'il parle pour ne pas dire, il parle pour faire diversion. Ça aussi, c'est du silence. Quand on meuble, on parle de tout, sauf de ce que l'on cherche à garder secret. Donc, ce n'est pas seulement de l'ordre du langage. Mais c'est une caractéristique du personnage, le silence. C'est ce que j'aime beaucoup chez Pinter. On se demande s'il y a de l'absurde dans ce que les gens disent. Et en fait, ils parlent beaucoup pour pouvoir garder le secret.
Et
en ce qui concerne mon expérience de travail dans une langue que je ne connais pas,
les
personnes avec qui je travaille connaissent précisément mes attentes, mon goût. Ils connaissent ma sensibilité sur le jeu d'acteur, sur la question de la langue et du texte. Donc, aussi bien les acteurs que les interprètes qui travaillent avec nous, au moment de la traduction du scénario, tiennent compte de ma sensibilité et finalement, le résultat est tel que je ne vous fais pas de différence avec quand je travaille dans ma propre langue. Mais bien sûr, c'est très complexe.
Well, I have done a good deal of work in television and the cinema.
J'ai fait beaucoup de travail pour la télévision et le cinéma.
But I regard these, and I know them to be quite separate activities to the stage.
Mais je considère que ce sont des œuvres, des activités tout à fait séparées du théâtre.
My work in the cinema and television has had no influence whatsoever on my work for the stage.
Ce que j'ai fait pour la télévision et pour le cinéma n'a eu aucune incidence, pas la moindre incidence sur mon travail au théâtre.
The problems are totally different in the different mediums.
Les problèmes sont totalement différents puisqu'il s'agit de médiums différents, de moyens de communication différents.
And as for the question of being influenced by other playwrights.
En ce qui concerne la question d'avoir été influencé par d'autres dramaturges,
I don't feel that I've been strongly influenced by any particular playwright.
Je n'ai pas l'impression d'avoir été influencé de façon considérable, forte, par d'autres écrivains de théâtre.
Although, naturally, if one is brought up from an early age to read,
Évidemment, si dès son enfance on a été éduqué à lire,
one naturally absorbs all the literature which you've read from a very early age.
On absorbe, on assimile forcément toute la littérature qu'on a lue depuis sa prime jeunesse.
Sur ce rapport entre vérité et secret, dans cet extrait qu'on vient d'entendre, Harold Pinter dit que le cinéma n'a pas influencé son théâtre. Vous, vous revendiquez au contraire cette perméabilité des disciplines, à la fois dans votre direction d'acteur, à la fois dans la manière dont vous répétez les scènes avant de les tourner, mais peut-être aussi justement dans ce rapport vérité-secret, il y a, vous montrez à l'écran ce qu'on peut voir aussi sur scène, et reste hors champ ce que peuvent être un peu les coulisses de l'intrigue, de la trame narrative que vous ne montrez pas, Asghar Farhadi.
چیزی که پینتر داره میگه همون چیزیه که راجبه در خود منم بهش اعتقاد دارم.
Oui, mais je crois profondément en ce que dit Pinter. Il dit que le cinéma et la télévision n'ont pas influencé son écriture dramaturgique. Pour moi, c'est dans l'autre sens que l'influence s'est faite. Le théâtre m'a permis d'enrichir mon écriture cinématographique. Je crois que le cinéma doit beaucoup au théâtre. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pièces de théâtre qui s'inspirent du cinéma et qui essayent de se rapprocher du cinéma. Et ça ne me semble pas être une bonne chose. La présence excessive de la technologie, de la lumière, de la vidéo, des effets spéciaux au théâtre. Pour moi, ce n'est plus du théâtre. Je crois que le théâtre doit avoir deux spécificités. D'une part, il doit être très concis, très minimal. Et un autre aspect que beaucoup contesteront, c'est que le théâtre est pour moi un art d'élite. Il ne s'adresse pas au plus grand nombre.
C'est
seulement l'élite qui se nourrit du théâtre et qui transmet aux autres. Donc, bien que je fasse du cinéma depuis des années, je garde ce grand respect pour le théâtre.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
La politique n'est pas absente de vos films, Asghar Farhadi, contrairement à ce qu'on dit souvent. Vous la réintroduisez dans les relations entre vos personnages, les rapports de pouvoir, de domination qui s'exercent au sein de la famille, du couple, de différentes classes sociales aussi. Et en ce sens, Everybody Knows est avant tout l'histoire de qui a les moyens. Une histoire de terre, de petits propriétaires et d'ouvriers. Comme exemple, dans la petite maison familiale, la petite pension familiale, l'hôtel où se retrouvent famille et amis pour la fête du mariage, il y a, comme souvent dans vos films, un escalier qui ne dit pas tout à fait pareil que dans La Séparation, qui est l'escalier lieu de l'accident. Ici, c'est peut-être l'escalier lieu de l'ascenseur social ou pas. Est-ce que vous, quand on qualifie ce film Everybody Knows de thriller familial, vous n'ajouteriez pas que c'est aussi un drame social et politique?
وقتی شما یه فیلم کار میکنید که میخواین که اون فیلم واقعی را باشه
lorsque vous avez une visée réaliste pour votre film, il est inévitable d'avoir toutes les dimensions sociales et politiques du groupe que vous décrivez. Et est-ce qu'il s'agit d'un drame social? Tout dépend du regard du spectateur. Quelqu'un verra ce film et vous dira qu'il n'y a vu que des relations interpersonnelles. Lorsque j'écrivais ce scénario, et je l'ai fait à l'aide d'un confrère, d'un auteur espagnol, j'ai vraiment tenu à ce que cette dimension sociale soit présente, notable. Peut-être que cette dimension est quand même inférieure à ce que j'aurais fait en Iran, mais je tiens tout de même que la texture sociale apparaisse à travers l'histoire que je raconte. Mais il y a quelque chose de la société espagnole, de la politique espagnole, notamment sur les tensions économiques et sociales qui sont encore présentes aujourd'hui en Espagne. De façon générale, je dirais qu'un film politique peut l'être de deux façons différentes. Il peut l'être de façon extrêmement directe, explicite, en traitant d'un point, être des films manifestes contre un système. Et les exemples sont nombreux dans le monde. Un cinéaste comme Vajda, comme Costa Gavras. Mais il y a d'autres films qui ne paraissent pas politiques au prime abord, qui ne sont pas des films manifestes, qui paraissent traiter de relations humaines dans une société donnée. Mais ces films-là montrent les conséquences du système politique sur la vie des êtres. Pour moi, ce film est encore plus politique que ceux de la première classe.
Il y aura deux cinéastes iraniens en compétition cette année à Cannes, vous, Asghar Farhadi, et Jafar Panahi, avec son film « Trois visages » qui sera présenté samedi 12 mai. À ce jour, on ignore encore si Jafar Panahi sera présent. Est-ce que vous serez, d'une certaine manière, son porte-voix ? Est-ce que vous vous vivez parfois comme une sorte d'ambassadeur, non pas du régime iranien, mais d'une culture partagée, cette culture ancienne, extrêmement riche, populaire, qu'est la culture iranienne ? Est-ce que vous portez cette fierté ?
Je suis très heureux que toutes ces années, Jafar ne soit pas devenu une personne isolée, passive, mais qu'il ait continué de produire et que cette année, son film soit sélectionné en compétition à Cannes. Bien sûr, si je dois aider à quelque chose en son absence, je le ferai. Mais je ne suis pas son porte-parole, mais je ferai ce que j'aurai à faire de sa part.
De quoi êtes-vous l'ambassadeur ?
De moi-même. Je n'accepte aucune autre responsabilité.
Les Iraniens, vous l'avez dit, sont à la fois très mégalo et très parano. Il faudrait que nous apprenions à nous regarder tels que nous sommes. Vous vous souvenez avoir dit ça ?
Pas tout à fait comme ça. من گفتم که ایرانیا همزمان یه خودشیفتگی ممکنه داشته باشه.
Que effectivement, il peut y avoir de la mégalomanie chez les Iraniens, mais en même temps un manque de confiance profond.
گاهی در واقع مخصوصا تو نسل‌های جدید
surtout dans les nouvelles générations. Il y a une fascination pour l'Occident où, qui fait que les gens sont persuadés d'avoir raté quelque chose en raison des conditions dans lesquelles ils vivent. Ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas être un aveu d'échec ou un sentiment d'incapacité. Jeunes Iraniens peuvent utiliser cette comparaison, cette émulation de façon positive et accomplir des choses. Ne pas se sentir inférieur quand ils regardent ce qu'il y a en Occident.
Alors comment êtes-vous ? Je vous propose, avant de répondre à cette question, d'écouter la voix de votre ami, le cinéaste Abbas Kiarostami, décédé en 2016, qui dit avoir toujours cherché à travers ses films, apporter une grande attention aux gens du peuple, à cette matière humaine qui l'intéressait tout particulièrement.
سوال بسیار خوبیه ولی جوابش خیلی کار سختیه برای اینکه دقیقاً نمیدونم چه اتفاقی افتاد. همونطوری گفتم روز به روز زندگی کردم، همه اونها رو تمام این تنوع کاری رو ناشی از یه بیقراری دائمی میدونم که به من این فرصت رو میداد یا این فرصت رو به من نمیداد که زندگیم رو در آرامش بگذرونم و بی تفاوت بمونم با اون چی که دور و بر من هست. بخشی از این بیقراری که بهش اشاره کردین معطوف به نگاه کردن به مردم، تماشای مردمه که مهمترین متریال به نظرم برای هر فیلمسازی، هر آرتیستی.
Comme je vous le disais, j'ai toujours vécu au jour le jour. Chaque jour, je me suis demandé ce que j'allais faire ce jour-là. Et cette diversité de formes qu'a pu prendre ma production à laquelle vous faites allusion, je n'y vois qu'une explication, c'est un tempérament profondément agité, impatient. Parce qu'il ne m'était pas donné de vivre dans la sérénité, dans un calme profond, il a fallu toujours que je produise, que je fasse quelque chose. Et donc cette constance dans l'agitation a fait que j'ai dû produire sous toutes les formes que j'ai trouvées. Et je crois que la matière première qui m'a été donnée, ça a été celle d'observer les êtres. La matière humaine étant la seule, au fond, qui m'intéresse et la première.
Est-ce que vous vous décririez comme Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi, être un homme avec un tempérament profondément agité et impatient?
Oui,
je pense que tous les artistes ont ça en eux.
این بیقراری ولی خب دلایل مختلفی برای هر آرتیستی ممکنه
سورس les raisons de cette agitation peuvent diverger.
برای من این بیقراری به دلیل اینه که گذر زمان رو خیلی میفهمم.
Cette impatience me vient d'une grande perception du temps, du passage du temps.
همش احساس کنم که این بازی که به اندازه عمر ما تایم داره هی میگذره.
Je pense que notre vie est un temps très court et je n'ai de cesse de le voir s'écouler.
دو نوع آدم وجود داره. بعضی از آدم‌ها وقتی عمرشون میگذره.
Deux façons de vivre.
احساس کنم که به عمرشون داره اضافه میشه.
Certains ont l'impression qu'au fur et à mesure qu'ils avancent dans la vie, il y a un capital qui s'augmente pour eux. Ils comptent les années, 40, 41, 42, il y a une accumulation. Et il y en a d'autres qui voient ça plutôt comme une régression. Ils se rendent compte que le temps qui leur reste va s'amenuisant. Et bien sûr que cela entraîne une agitation et une impatience.
این بیقراری یه جوری حاصل آگاهیه.
Je pense que ce n'est que le fruit de la conscience.
بشر امروز در واقع بیش از همیشه بیقراره و بیش از همیشه افسرده است.
L'être humain aujourd'hui est à la fois extrêmement impatient, agité et extrêmement déprimé.
آگاه شده.
Puisqu'il prend conscience de sa condition plus que jamais. Il comprend le passage du temps. Il a pris conscience de beaucoup de choses.
Merci beaucoup, Asghar Farhadi. Merci. Je rappelle que votre film est en salle aujourd'hui partout en France, après avoir été présenté hier soir au Festival de Cannes. Merci mille fois à vous.
Merci.